original. Soyez les bienvenus avec Daniel Morin.
Oui, bonjour.
Albert Algou.
Salut.
Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure également. On a normalement Marina Rollman qui ne devrait pas tarder si tout va bien. Et puis nos invités, merci d'accueillir Fanny Valette et Patrick Chenet.
Bravo.
Soyez les bienvenus, si vous voulez, Fanny,
vous
pouvez avoir un casque ou pas de casque.
Bon, allez,
voilà.
Hop.
Sachez simplement que tout est filmé, donc évidemment, tous les gestes inappropriés seront mal perçus, comme consulter son téléphone portable, Patrick Chenet.
Non, je suis en train de mettre sur mode avion.
Tout en mâchouillant un chewing-gum très radiophonique.
Et surtout avec sa mèche rebelle qui caractérise.
Oh là là.
Méfiez-vous, vous êtes filmé maintenant.
Oui, je sais, c'est pour ça.
Tu te souviendras de moi... Ouais, bah ça commence bien, oui, on va s'en souvenir. Tu te souviendras de moi, cette pièce qui est à la fois drôle et émouvante, signée François Archambault, se joue au Théâtre de Paris, à la salle Réjeanne, avec Fanny Valette et Patrick Chenet, nos invités, mais également Frédéric de Golfiem, Nathalie Roussel et Émilie Chenet, votre douce et tendre fille. On va parler évidemment de cette pièce, mais avant cela, nous allons voir à quel point vous connaissez ou pas d'ailleurs la vie de Fanny Valette.
J'aime bien la tête
par cœur.
Ou de Patrick. C'est votre première, Fanny, en plus.
Oui, exactement.
Parce que lui, c'est un habitué.
Il va falloir être gentil avec moi.
Ici, j'ai mon rond de serviette, je ne sais pas où il est.
On a construit le studio autour de Patrick Chenet.
C'est le studio Chenet ici.
C'est ça.
C'est la moindre des choses.
Alors.
Elle n'est pas là.
Non. Leïla. Leïla Kadour-Boudadi est légèrement souffrante.
Ah, parce qu'elle savait que je venais.
Non, c'est toute la semaine. Elle est venue lundi pour nous prouver qu'elle était rentrée de vacances. Et puis,
elle est repartie en vacances lundi soir.
Non, la pauvre. Elle est. Alors, nous, on a fait courir la rumeur qu'elle avait une gastro.
Ah, j'ai écouté une émission.
Voilà.
Ou...
Ouais. Et elle nous a insulté en disant que c'était une angine. Voilà. Donc. Oui. Voilà, c'est une angine du cul.
C'est un drôle de
angine. C'est
le service public, ne vous inquiétez pas, c'est le service public.
C'est ça, j'ai bien fait de venir, je sens que ça va être extrêmement fin.
Non mais il sait être délicat, Nagui. Hein,
Fanny, un conseil justement...
Ne dites rien.
Pour une soirée arrosée, ce qui concerne un peu tout le monde autour de cette table, quel est le conseil pour préparer une soirée arrosée? Vous savez que vous allez boire et Fanny Valette a un truc.
La cuillère d'huile d'olive.
Non, ouais, moi je fais ça aussi.
Ouais, ouais, toi aussi. Non. Ah, tu dois en boire souvent. Hein.
Elle a fait autre chose.
Vitamine C, moi.
Moi, j'ai un conseil pour une soirée arrosée.
Alors
ouais. Je prends une vitamine C. Ça jette un froid.
J'ai dit un truc comme ça, moi.
C'est ça, oui.
Pas mal.
Ah bon? Moi, je pensais que le conseil, c'était de pas en parler à ses parents quand on était jeune. Mais...
Non. Prendre du paracétamol, c'est ça? C'est la vitamine C, le paracétamol?
Prends la vitamine C avant de soir.
C'est
quoi,
paracétamol?
L'aspirine.
On continue.
C'est prendre de l'aspirine.
Oui, bonne réponse, Daniel.
Non, mais ça, c'est après l'aspirine.
Non?
Alors, ça peut être
préparer une soirée arrosée, ou alors c'est bidon, c'était dans Grazia.
Non, elle était bourrée quand elle arrive.
C'est ça.
En prévision de soirée, je prends un Doliprane 1000 et je bois beaucoup d'eau avant d'aller à la soirée de picoler.
Mais ça, c'est parce que je voulais faire genre quand j'étais jeune, mais ça m'est jamais arrivé.
Quand j'étais jeune, c'est rien.
C'était il y a deux ans, ouais, c'est ça. Ok. Qu'a parié Patrick Chenet avant la Coupe du Monde de football, là, que nous venons de vivre en 2018.
Que la France allait gagner.
Non.
Que la France allait perdre.
Non.
Que vous seriez à tous les matchs.
Non.
La Suisse en finale.
Non. Ah, t'es là, Marina.
Je me suis trompé de studio.
De radio.
Que l'Allemagne allait gagner.
Non plus. Alors, c'est pas sur le résultat. Il a fait un pari qui ne concernait que lui sur la Coupe du Monde de football.
Que Deschamps aurait une crise cardiaque.
Non, qui ne concernait que Patrick Deschamps.
Patrick Deschamps, c'est qui?
Patrick Chenet, laisse tomber, sois poli avec Deschamps.
Il allait arrêter un but du Japon.
Non.
Lui-même.
Non.
Non.
Qu'allait faire Patrick Chenet pour la Coupe du Monde de football?
Regardez tous les matchs.
Exactement. Les 64 matchs.
Oui. Vous les avez regardés?
Non, j'en ai regardé 61.
Bouh!
Ah, c'est pas mal.
La tendance était à louper aucun match. Mais non, je suis pas arrivé parce que je tournais en même temps et j'avais de la promotion de films. Enfin, j'avais quelques activités extérieures. Donc, parfois, mes nuits étaient courtes parce que j'enregistrais, je regardais en replay, etc. Non, c'était du boulot. C'était un boulot.
Il a bossé cet été.
Est-ce que vous auriez aimé être consultant en foot ou être commentateur de matchs de foot? Non.
Non, pourquoi pas, pour rigoler, ça ne m'a jamais traversé l'idée. Je crois que j'aurais été un bon commentateur. On m'a fait commenter une fois un match comme ça pour rigoler sur Canal+, il y a longtemps. Et j'étais plutôt pas mal, ouais. Ouais, ouais. Ça me donne des idées.
Et modeste en même temps, c'est bien, les deux à la fois. Hein.
C'est bien payé? Non, je
me rends pas compte. Si. Il y a plein de stars du foot qui s'y mettent.
Ah, c'est Bean qui appelle.
Il marche pas bien le mode avion.
Question concernant Fanny Valette, cette fois-ci, sur quel site de rencontre s'est-elle déjà inscrite?
Adopte un mec.
Exactement.
Ah non, alors jamais.
Mais il faut arrêter de laisser des gens répondre aux interviews à votre place.
Non, mais j'ai jamais dit un truc comme ça, c'est impossible.
Si, alors c'est dans Challenge en 2017.
Vous êtes sûr que c'est moi?
Ah bah oui,
parce
c'est
que je me suis battue en fait studio.
Avec des copines, quand Adopte un mec a commencé à marcher,
non, on s'est fait un profil. C'est différent.
Ah bah voilà.
On avait créé.
Il y a beaucoup de choses qui reviennent à l'esprit.
Non, on avait créé un faux profil où on était à 4 ou 5 dessus.
Copine.
Oui, sur le profil. Hein.
Oui.
Et on avait, c'était ni mon nom, ni ma photo, ni.
Vous avez inventé quoi, la famille?
On avait pris une photo de Miley Cyrus, il me semble, et on s'était inscrit 3 jours pour un truc qu'on voulait écrire et.
Et c'était quoi, pour faire rêver les garçons ou pour voir comment fonctionnait?
Non, mais parce qu'on n'allait pas mettre notre tête.
Oui,
parce
mais
que...
c'était pour apprendre quoi? La réaction des mecs.
C'était pour avoir des échanges un peu humoristiques, pour voir.
Humoristique,
un peu...
oui, bien sûr, c'est que de l'humour, tout ça.
Je comprends rien à cette conversation.
c'est un site internet où
de rencontres.
De rencontres, qui s'appelle Adopte un mec.
Pourquoi?
Ou des, devine. Ou des filles.
Ah oui, pour se rencontrer, quoi.
Pour prendre du paracétamol ensemble.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est pas spécialement d'ailleurs pour former un couple, hein, c'est plutôt pour passer une soirée.
Ah bon, Adopte un mec, non, je pense que c'est pas comme les Tinder ou les trucs comme ça. Je pense qu'à l'époque, les gens, c'était vraiment
sérieux
pour se rencontrer, non?
D'accord. Et alors, vous avez eu des gens au téléphone ou pas du tout?
Non, on avait passé 2 jours, oui, on avait eu des échanges. Bah, ça remonte un petit peu. Non, on avait passé, oui, une soirée à faire ça pour se marrer. C'est pas très... très chouette de notre part, mais voilà.
Délire de copine, quoi.
Voilà, délire de copine.
Très bien. Quels sont les 3 ingrédients dont se prive Patrick Chesnais pour avoir la forme d'athlète et le physique de beau gosse qu'il a toujours aujourd'hui?
Le beurre, l'huile et le shit.
Pas loin. Il y a une histoire de laitage.
Ah!
3 ingrédients dont il se prive pour gagner à
l'île. Le fromage.
Crème fraîche.
Alors, le fromage, en effet, il s'en prive.
Le laitage, toujours?
Ouais, toujours, ouais.
Le beurre, disons.
Non.
Les yaourts.
Non, plus généralement.
Le vin.
Le lait.
Ah non, pas le vin, puis quoi.
C'était un test, on s'en doutait.
Les gâteaux, le lait.
Les gâteaux, ouais, bien joué. Dessert.
Les bonbons.
Et il manque un truc.
Ouais, pareil, enfin,
un truc. Donc pas de sucrerie, pas de fromage.
L'étage.
Et charcuterie.
Exactement.
Voilà.
Oh, mais quelle tristesse.
Mais
enfin, les apéritifs, comment
alors,
fait-on
Patrick?
Non, je déteste les apéritifs.
Ah,
moi, j'ai un voisin qui m'invite plus, parce que à dîner le soir, et l'apéritif était à 9h, on passait à table à 11h, complètement bourré. Et ça dure 2h, on n'a plus faim, on bouffe des cacahuètes, des machins, des chips, des conneries.
Des rondelles de saucisson.
Et on a plus, à 11h30, on dort. Enfin, non, les apéritifs, non.
Donc, mais alors, plus de dessert, c'est quand même dommage. Un petit tiramisu,
tiramisu, c'est... Non, je prends des fruits.
Ah oui, d'accord.
Des raisins, oui, pêche,
du sucre,
melon.
Du sucre naturel, mais pas du sucre industriel.
Voilà, j'essaie. C'est dur, hein, c'est une lutte de tous les instants. Pas de fromage non plus, vous vous rendez compte? Pas de fromage. Comment est-ce qu'on peut vivre sans fromage? J'y arrive.
Même pas. Alors, le fromage de brebis, de chèvre?
Non, rien du tout. Bah non, faut être radical.
De vache, je suis d'accord, parce que le lait de vache, c'est pas bon pour la digestion.
Radical.
Le chèvre
nectaire,
brebis,
c'est bon.
Un bon kiri.
Tiens, on va rester dans la nourriture avec Fanny Valette. Du moins, elle a toujours dans son frigo. D'après une interview de 2015, ça a peut-être changé. Elle a toujours... Faut absolument garder son rire, hein, Fanny.
Oui, elle a toujours... Elle a beaucoup
travaillé à la maison. Hein. Maîtrise. Hein.
Oui. Elle a toujours dans son frigo quoi?
Un mec.
Non,
une bouteille de champagne.
Non.
Non.
Elle a toujours dans son frigo.
Toujours avoir une bouteille de champagne chez soi, non?
Bah oui, c'est une bonne idée.
Du Saint-Doux.
Non.
Des gâteaux.
Alors c'est dans du domaine de... Oui.
Un cheesecake.
Non.
Un space cake.
Non.
J'en sais
rien. Pas d'idée?
Un tiramisu.
C'est pas de la bouffe ni un truc qui se boit.
C'est un truc qui se mange.
Du chocolat? Du Nutella?
Non, qui se mange. Qui peut se manger au petit déjeuner comme.
Des céréales.
Comme dans un goûter ou un dessert.
Des biscottes?
Non.
Du Nutella?
Non.
Des brioches? Des pains briochés.
Un poulet?
Des pains briochés, 50% de matière grasse?
Non, plus breton que ça.
Des crêpes?
Queen Amman?
Crêpes.
Ah, oui, à l'époque, ouais.
Ah, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans votre vie, dites-vous.
Bah oui.
Incroyable.
Non, mais les crêpes, j'adore ça, je m'en faisais tous les matins quand j'étais plus jeune. Wow.
Donc sucré le matin, est-ce que vous vous amusez aussi à faire des complètes entre guillemets pour manger un encas
J'en fais, j'aime bien, ouais. J'adore faire la cuisine. Je savais que cette émission n'allait pas être longtemps, mais...
un quart d'heure sur les crêpes enfin, avec du
alors
sarrasin.
Dès qu'on parle pas de vous, c'est incroyable.
C'est ça.
Ah non, on peut parler des sujets
comme
la maladie d'Alzheimer.
On va en parler dans deux secondes. Dernière question sur.
Il avait oublié Nagui.
Sur Patrick Chesnais. Il n'a pas eu du succès tout de suite, Patrick Chesnais, c'est pas vous faire offense que de le rappeler, non. Et d'ailleurs, là, maintenant, j'ai des gros doutes sur votre carrière. Mais que disait sa maman à ses amis pour expliquer que son fils ne passait pas à la télé?
Qu'il était malade.
Alors, c'est...
Qu'il avait une gastro.
Qu'il avait un physique de radio.
Alors, c'est un problème avec le physique, oui. Un problème de...
Un problème qui renvoyait mal la lumière.
Il ressemble trop à quelqu'un d'autre.
C'est un problème avec le physique et la lumière.
Qu'il était allergique à la lumière.
Il prend mal.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que, dans certains milieux un peu provinciaux, être acteur était un métier à haut risque, et bizarre, étrange. Et comme je ne faisais que du théâtre à mes débuts...
On ne voyait pas la télé.
Et, bon, les voisins, les amis, tout ça était perplexe quant à ma carrière et ma mère. Perplexe.
Vous l'aimez pas celui-là.
Perplexe.
Voilà, bien.
Et que ma mère disait non, c'est parce qu'il peut pas supporter les projecteurs, donc c'est pour ça qu'il fait pas de télé.
C'est tellement mignon de dire ça. Ouais. Il fait pas de télé parce que les projecteurs, ça lui fait mal aux yeux.
Ouais.
C'est lui qui décide de ne pas aller à la télé, ouais, pas l'inverse. Très bien. Revenons donc au théâtre et à cette pièce qui parle, oui, de la maladie d'Alzheimer, mais pas uniquement. Tu te souviendras de moi. Votre personnage, Patrick Chesnais, est un professeur d'histoire qui s'y connaît, qui connaît les dates par cœur, qui connaît les personnages par cœur, qui connaît tout par cœur, mais qui, en l'occurrence, la pièce démarre par une sorte de témoignage à la télévision, dans une émission de télé où vous êtes avec votre femme, oui. Madeleine, et vous brillez de par vos connaissances, et où elle, dans son coin, presque en aparté, sans que lui l'entende, ne fait que commenter, c'est extrêmement drôle d'ailleurs, ne fait que commenter ce qu'il est en train de dire, en disant « Non, mais il se souvient de rien, non, mais c'est pas ce qu'il dit, il retient des dates, mais que des guerres, dès qu'il y a des morts, évidemment, il retient, le reste, il retient pas, et elle fait même des vannes sur vos étudiantes, enfin, elle est très cinglante. »
J'essaie de démarrer, j'y arrive pas.
Allez-y. Non, mais c'est pour mettre
en
place.
D'accord. Mais simplement, c'est un portrait, c'est l'histoire d'un portrait d'une rencontre. C'est un type qui est professeur d'université, qui l'a été, très brillant, puis c'est aussi une vedette des médias.
Une référence, quoi. Invité sur les plateaux
télé pour donner son avis sur la marche du monde et sur tout et son contraire. Et voilà, donc c'est un type qui est un peu dépossédé de tout ça, puisqu'il est un peu Alzheimer, il joue avec ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui déconne un peu avec ça, qui s'emporte, met la maladie plus forte que lui. Simplement, dans cette dernière trajectoire de sa vie, ça a l'air un peu pesant tout ça, mais il faut savoir que c'est une comédie, c'est traité
c'est
avec
drôle.
Beaucoup d'humour.
Ouais,
hein, c'est drôle, les gens, on l'a créé à Antibes, les gens rient beaucoup, beaucoup. Il va y avoir une espèce de choc culturel et générationnel, avec sa babysitter jouée par Fanny Valette.
Bénédicte dans le personnage de
voilà,
Bénédicte.
Voilà, ça va être une espèce
Bérénice.
De rencontre, comme tout dans...
Bérénice,
tout,
pardon. Ah, j'ai dit
dans,
Bérénice.
Dans toute comédie qui se respecte, il y a une espèce d'antagonisme au départ, peu à peu ils vont se découvrir, et puis ça va être une histoire.
Alors, pour bien comprendre comment la rencontre se fait avec Bérénice, oui. Le personnage Bérénice, joué par Fanny Valette, c'est votre épouse qui va voir votre enfant, Isabelle,
oui.
Jouée par votre
Émilie.
Propre fille.
Oui,
voilà.
Oui.
Et qui est en couple avec Patrick, que vous appelez Michel, parce que vous êtes resté
oui.
scotché à
sur
Alex, petit ami.
Son ancien petit ami que j'aimais beaucoup et que j'ai du mal à accepter le nouveau, quoi. Voilà.
Et elle va vous déposer comme à la consigne en disant écoutez, ouais, moi je vais partir un peu, j'en peux plus, je suis fatigué. C'est dur à vivre finalement avec quelqu'un qui. Ouais,
c'est un peu un boulet. C'est un boulet charmant, séduisant. C'est un type qui a eu beaucoup de succès
auprès des femmes,
auprès des filles,
et de ses étudiants.
Donc, qui a une espèce de profil comme ça, de populaire, séduisant, et qui peu à peu se sent dépossédé de tout ça, se révolte un petit peu, mais il est toujours charmant, jusqu'à une espèce d'acceptation plus ou moins lucide de son état. On ne sait pas trop exactement. Hein, ça se perd un peu dans. dans les limbes, et c'est un poids aussi pour sa famille. Sa femme en peut plus, elle a trouvé un amant, sa fille qui est reporter pour la télé, pour une chaîne, j'imagine, être
une chaîne d'info qui doit aller pour faire, qui doit aller couvrir des inondations.
Et voilà, elle a un reportage à faire sur les inondations, ce type au milieu de tout ça va ou accepter ou se révolter et puis
non mais pardon on se le refile un peu comme une espèce de patate chaude.
Oui,
c'est-à-dire que votre épouse vous confie à sa fille à votre fille en disant tu le gardes parce que moi il faut que je parte en vacances, que je me repose, je suis crevé, très bien, je le garde, sauf que moi j'ai du boulot, hop, je le file à mon nouveau mec que vous ne connaissez pas et qui va devoir vous garder, sauf que le nouveau mec, lui, il a une partie de poker, donc il va confier à sa fille,
voilà,
et c'est là où Bérénice arrive, à sa fille qui est une espèce d'ado qui peut passer pour être insouciante ou en tout cas pas très mûre ou mature, et de là va naître une nouvelle histoire de complicité.
Et puis aussi, voilà, ce type, si vous voulez, c'est aussi le nouveau monde contre l'ancien, le nouveau monde numérique surtout, avec tous ces errements, tous ces excès que rejette totalement le prof d'un autre monde que je suis.
Vous dites que c'est la fin de la société.
Oui, c'est ça, c'est la désintégration de l'espèce humaine.
La déshumanisation.
La dématérialisation. Enfin, il y a plusieurs termes dont je me souviens plus d'ailleurs.
c'est bien pour la pièce d'avoir oublié son texte.
Rassurant.
C'est très rassurant. Et alors vous intervenez, Fanny Valette, dans cette pièce comme étant justement l'insouciante qui ne sait pas trop de l'importance de sa responsabilité. Elle doit s'occuper de ce vieux monsieur.
Oui, c'est ça, elle pensait
pas
que...
Vieux monsieur, n'exagérons.
C'est un rôle de composition.
Oui, c'est ça.
Vieux monsieur brillant.
Ce type d'un certain âge.
Absolument charmant.
Dans la maturité.
Non, elle pensait en fait que ça serait plus drôle et plus simple de...
Qui
de...
voit le temps qui passe.
Vous pouvez laisser parler 2 secondes
mais
les
qui
autres.
En même temps...
Mais je me vengerai sur scène,
Oui, donc...
Elle pensait que ça serait plus simple que de s'occuper d'enfants.
Ouais. Oui, c'est du babysitting.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Et,
du papysitting.
Et en fait, elle va être confrontée à un monsieur où, au début, je pense qu'elle prend pas toute la mesure de sa maladie et de ce que ça représente. Et puis, il l'agace profondément et ils viennent effectivement, comme tu disais très justement, Patrick, de deux mondes complètement opposés. Et tout d'un coup, il va y avoir une complicité qui va se créer, que je trouve.
Elle l'envoie dans les cordes quand même, à Diva.
Oui, c'est ça qu'elle
l'envoie. Ouais. Et lui, je crois que ça lui plaît bien, tout ça.
Mais comme beaucoup d'hommes, hein, vous aimez bien quand.
Fanny, vous êtes à l'antenne. On entend ce que vous pensez, faites attention, vous entendez.
Elle est rigolote, elle est marrante.
Mais elle amène justement cette fraîcheur dans la vie de ce professeur et elle va bizarrement, parce qu'il est en train de perdre la mémoire, mais il perd la mémoire immédiate, il ne sait pas quel est le prénom de la personne à qui il a parlé 5 minutes avant qu'elle lui soit présentée, il ne sait pas ce qu'il a mangé le matin même ou ce qu'on lui a dit il y a 10 minutes. Par contre, il se souvient de détails extrêmement précis lorsque ça remonte à plusieurs années, y compris de détails vestimentaires ou d'une ressemblance ou d'un prénom qui vont lui évoquer une autre personne qu'il a très bien connue dans sa vie. On peut le dire ou ça fait partie des surprises de la pièce? On le dit pas.
Ce qu'il faut, moi j'ai envie de mettre quand même l'accent sur l'aspect drôle de la pièce. Les gens rient beaucoup. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est comme les sourds qui n'entendent pas. C'est à la fois pathétique, en même temps c'est drôle.
C'est vrai, ce type pathétique,
mais en même temps il est drôle parce qu'il demande qu'il soit la même chose. Il croit tout savoir, mais il dit n'importe quoi. Je veux dire, donc c'est une source de malentendus, de terrain
tout
miné.
Tout est paradoxal dans cette pièce.
Oui, donc c'est une source de rire. C'est traité quand même dans l'humour et dans la drôlerie un peu. Ce qui n'empêche pas que ça soit, je pense qu'à la fin, quand on le joue en Tibes, les gens ont beaucoup ri. En même temps, je voyais les gens qui pleuraient au premier rang. C'est-à-dire que je pense que plus ce type est drôle, attachant, séduisant, plus quand il est un peu largué, on s'est attaché à ce garçon. Hein.
Et en même temps, ils ont tous leur histoire. C'est-à-dire que c'est, la maladie d'Alzheimer traitée du point de vue de celui qui perd la mémoire, mais aussi du point de vue de ceux qui vivent avec, et de leur souffrance aussi de ne plus être reconnu, d'être délaissé.
Ben non, parce que par exemple, sa fille l'aime, mais en même temps, ne veut pas être prisonnière de cette maladie, veut prendre ses distances, essayer de s'organiser pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Mais elle n'est pas, c'est pas, on n'est pas dans le bisounoursing. C'est bisounoursing. J'invente des mots.
Non, mais les gens avaient l'air de nous dire que c'était ce qui les avait beaucoup touchés aussi, c'est que par rapport aux réactions justement de l'entourage du personnage de Patrick, c'est assez juste. Ce qu'a écrit François Archambault dans sa pièce.
Sur la maladie.
Sur la maladie, sur comment effectivement l'entourage peut vivre cette maladie aussi. C'est pas toujours évident. Oui.
Parce que ce type prend de la place, hein. C'est un peu un cabot, ça. Il est haut en couleur, il déconne, il veut prendre la, il veut être sur les plateaux télé, le roi de la piste.
Oui, et puis il peut s'enfuir la nuit aussi, se barrer.
Et puis, je pense qu'il a dû tromper sa femme un certain nombre de fois avec des étudiantes, ce qu'il dit d'ailleurs, parce que
il en est fier. On en parlera tout à l'heure avec Marc Verny, qui est neurologue et spécialiste de la maladie d'Alzheimer. La pièce drôle et émouvante, mais dans les émotions, il y a aussi bien les larmes de tristesse. Est-ce que les larmes de joie s'appelle Tu te souviendras de moi. C'est à la salle Réjeanne au théâtre de Paris. Père Albert, oui. C'est un succès signé d'avance cette pièce.
Mais bien sûr, Nangué, ça va cartonner. Non seulement parce que le texte de cette pièce aborde, on vient de le dire un instant, avec beaucoup d'humour et d'humanité, le thème sensible de la maladie d'Alzheimer, mais encore parce que c'est d'Alzheimer. Mais vous savez, j'articule bien. Mais encore parce que ses interprètes, dont Patrick Chesnais et Fanny Valette. Bonjour Patrick.
Bonjour
Fanny. Sont de formidables comédiens. Quant à moi, il va sans dire que le titre de cette pièce me bouleverse au plus profond. Parce que mes jeunes en recherche, quand ils quittent ma camionnette bâchée cuir clouté noir, que vous connaissez, j'ai coutume de lancer « Tu te souviendras de moi ». Mais je vous en prie, Nangui, épargnez-moi vos sous-entendus, ce rire révélateur de pensée. Voilà, aussi tordu que libidineux, oui. Je ne reviendrai pas sur les activités éducatives proposées dans mon véhicule, vous les connaissez, mais je tiens quand même à signaler, car c'est la rentrée, les nouveautés de cette rentrée pour cette saison. Alors, désormais, 2018, ma camionnette...
La camionnette 2018-2019.
2019, exactement. Je vais la tatouer sur la carrosserie. Mais je signale les nouveautés, donc. Elle fera aussi coffee shop, désormais, bar à vin et initiation de mes garçons aux danses latino, mambo, rumba, cha-cha, salsa, samba, lambada, et surtout la bachata. Vous connaissez la bachata, Nangué? Ah ben, je pourrais vous donner des cours si vous voulez.
Non plus. Bon.
Alors, j'allais oublier une autre activité. Soyons sérieux, l'atelier Pape François.
Je crains le pire.
Ou avec l'abbé Norgé, le perplexe, tiens, pendant que j'y suis, l'abbé Jacques Facial. J'expliquerai à mes scouts le bien fondé des propos aéronautiques du Saint-Père sur l'homosexualité. Cette déviation répugnante. Et sur d'autres sujets... Attends, je ne me souviens plus. Bon. En revanche, ce que je me remémore très bien, Nangui, ce sont les cris de douleur... de GNB, notre malheureux rédacteur.
Malodorant aussi. Ouais.
Et également, oui, qui est rongé la syphilis. Quand tout à l'heure, après qu'il vous eut annoncé la venue de Patrick Chesnais et de Fanny Valette, vous êtes mis à shooter dans sa bedaine rebondée comme un ballon de foot à la façon de vos jeunes amis aux cuisses de feu, Pogba et Mbappé, lors de la finale du mondial de football. Pourquoi cette avalanche... C'est GNB qui parle. Pourquoi cette avalanche de coups de pied, oh mon bon maître? Pourquoi cette bastonnade? Nangui, ok, Fanny Valette n'est jamais venue dans la BO. Mais Patrick Chesnais, il va finir par se croire chez lui et exiger que le studio porte son nom. Et puis, tiens, prends ça. La maladie d'Alzheimer, t'as pas plus fun comme thème. Mais oh mon infaillible chef, vous êtes un spécialiste de la mémoire. N'animez-vous point avec un talent fou et un succès qui ne se démange jamais. N'oubliez pas les paroles. Voilà, cher Patrick, cher Fanny, comment se prépare cette émission? J'espère juste que celle-ci vous laissera malgré tout un excellent souvenir.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Cette pièce de théâtre démarre le 4 septembre. Vous l'avez déjà jouée, rodée. Est-ce que quelques jours comme ça, 48 heures, 72 heures avant de l'interpréter, on fait quoi? On travaille à nouveau? On est en répétition dans le décor? Qu'est-ce qui se passe, Fanny Valette?
Oui, bah, on essaye de se remettre... En fait, on a un nouveau décor, donc il faut prendre des nouvelles places.
Donc une nouvelle mise en scène,
un nouveau théâtre surtout.
Oui, ouais. C'est ça, c'est un nouveau théâtre,
donc,
un nouveau décor.
Donc on passe d'un très grand théâtre à un petit, il y a une adaptation, ce qui est intéressant, hein, c'est un nouvel...
Oui, je trouve que le rapport est plus intimiste, mais ça crée quelque chose par rapport au sujet qui est plus intéressant, je trouve.
Mais il faut prendre ses marques, c'est ce qu'on fait.
Voilà, on travaille.
Vous êtes prêts?
Bah oui, non, tu crois
pas? Non, je trouve pas. non, oui, non, mais c'est bien, parce que c'est bien d'avoir rodé, je sais pas si le terme va être bien pris par les provinciaux, les gens Antibes, mais c'est bien de l'avoir expérimenté, en tout cas d'avoir joué, et de savoir, d'avoir...
Parce qu'à Antibes, il y a eu plusieurs représentations, ou une seule?
14 ou 12? 12 ou 14, je sais plus.
D'accord.
Enfin, on l'a créé à Antibes.
Pendant deux semaines, d'accord.
Deux semaines.
Facile.
Voilà, donc ça permet de...
14 jours ne doit pas être moins de deux semaines.
D'arriver le jour de la première ici avec quand même quelques arguments.
Ça sera le 4 septembre que cela démarrera à la salle Réjeanne et ce jusqu'à ce que...
Jusqu'à fin de l'année, début janvier, je crois.
D'accord, ouais, très bien, très bien. Ça s'appelle, je le rappelle, Tu te souviendras de moi. Voici Marina Rollman qui est enfin là. Oui. Salut Marina.
Ah bonjour les amis, quelle joie d'être de retour dans ce nouveau studio. Bravo aux architectes, c'est vraiment très rouge. Et ça tombe bien, parce que cet été, moi je me suis intéressée à l'architecture, plus précisément aux maisons de riches. Oui, c'est très belles maisons, vous savez, qu'on voit dans les reportages des magazines déco. Et en fait, c'est un genre littéraire en soi. Parce que c'est pas des interviews d'architectes qui t'expliquent comment ça se passe techniquement, c'est les interviews des propriétaires. Et évidemment, les propriétaires, quand tu leur poses la question, ils peuvent pas dire la vérité, tu vois. Parce que s'ils disaient la vérité en interview, ce serait comment on a fait pour la maison ? Bon, j'ai vraiment plein de thunes, en fait. Et c'est faible en termes de storytelling. C'est un peu court. Donc, évidemment, ils tartinent le truc et ça devient des espèces d'épopées, ces visites de maisons où des gens qui savent pas, ne serait-ce qu'épeler le mot truelle, sont persuadés d'être à l'origine de leur château. Et alors, j'ai beaucoup aimé ça. C'est pourquoi j'ai fait une typologie de mes reportages préférés qui reviennent souvent dans ces magazines. Alors, premier type de reportage, la maison qui est tellement nous. Alors ça, c'est une photo, t'es dans la cuisine, bon, cuisine normale, 12 mètres sous plafond, mur en oursin, casserole en acre. Et la légende de la photo, c'est un truc genre, pour la cuisine, on voulait quelque chose qui nous ressemble. Bon bah donc moi, je suis rentrée chez moi, j'ai regardé ma cuisine, oh là là, comment je suis moche. Ah, j'ai pris une claque, pour la cuisine, on voulait quelque chose qui nous ressemble. Moi, tu viens chez moi, tu prends une photo de la cuisine, la légende, ce serait, pour la cuisine, on voulait une hotte. Mais on voulait aussi une agence qui accepte notre dossier, donc on ouvre la fenêtre. Non, mais je sais pas si c'est le fait d'être très riche aussi, mais il y a des trucs normaux. Tout à coup, les gens dans ces interviews, ils ont l'impression de les inventer. Tu vois, ils te mettent, par exemple, une photo d'une grande pièce avec une table et des chaises. Et les proprios, ils disent un truc du genre, c'était capital pour nous d'avoir un espace central où partager un repas avec les enfants. C'est-à-dire, vous pensiez breveter le concept de salle à manger? Qu'est-ce que... Bon, en même temps, encore heureux, tu vois, c'est rassurant. Tu te dis, les riches, ils ont beau avoir des vies hors du commun, ils font certains trucs comme tout le monde, tu vois. J'aurais trouvé dommage qu'ils finissent la visite par dire, bon, mais évidemment, la pièce principale, la salle des bidets. C'était vraiment important pour nous d'avoir un endroit où se retrouver en famille. Deuxième type de reportage que j'aime beaucoup, c'est la maison, on n'aurait pas pu faire autrement. C'est ça ou rien, c'était un peu une évidence. Alors ça, c'est une photo, t'as la propriétaire dans un pull en platine, qui regarde le soleil se coucher sur le Pacifique depuis la salle de botox de sa villa moderniste en Californie. Elle tient une tasse comme ça à deux mains, parce que c'est lourd, une tasse en marbre. Et la légende, c'est « on ne se voyait pas élever les enfants ailleurs ». Mais moi non plus. Si c'est une question de vision, mais je te suis à 2000%, Monique, enfin. Et dans l'autre sens, je vais te dire, j'ai l'intuition que même les gens qui ont choisi d'avoir une chambre à coucher qui donne sur un échangeur autoroutier, tu leur prêtes les clés un week-end, ils sont pas contre, hein. Je pense qu'ils viennent passer un petit moment chez toi. On se voyait pas élever les enfants ailleurs. Mais vous croyez que ça marche pour d'autres choses? Vous croyez que tout dans sa vie est comme ça? On ne se voyait pas avoir des enfants laids, c'est pour ça qu'on a volé Hans et Prune sur une plage de Majorque. Troisième type de reportage que j'aime beaucoup, c'est la maison dont on s'émerveille qu'elle existe. Alors ça, c'est, tu vois une photo, la maison c'est genre Versailles en moins cheap. La baraque, elle est sur une falaise qui surplombe la mer, comme ça dans le parc, il y a des pans, des grizzlies, des dodos. Wow. Et la légende, c'est quand on est arrivé, il y avait juste un puits. Et quand ils font le récit, c'est toujours la nana qui raconte sa vision. Tu sais, elle est en photo, posée sur un canapé en fossile dans la salle de water polo. Et elle dit un truc genre, il n'y avait rien, mais j'ai vu le terrain et j'ai senti. J'en ai parlé à mon mari, il m'a dit, tu es folle. Je lui ai dit, fais-moi confiance. Et aujourd'hui, c'est lui qui ne veut plus partir. Et puis maintenant que les enfants sont grands, c'est vraiment idéal pour organiser des mariages ou le G20. Et toi, tu regardes la photo et t'es là, attends, ce que tu essaies de me dire, c'est qu'au départ, t'avais juste 30 hectares sur la côte amalfitaine, les meilleurs architectes d'Europe et un budget illimité. Oh bah vraiment, chapeau Mathilde, un tas l'œil, c'est incroyable. incroyable, c'était pas gagné d'avance, tu vois. Non, mais plus sérieusement, c'était intéressant de lire ces trucs parce que ça me fait réaliser ce que c'était réellement qu'un foyer. Je crois qu'en fait, être à la maison, c'est pas une question d'endroit. Être à la maison, c'est simplement être avec des gens devant lesquels tu sais que sans gêne, sans peur du jugement, tu peux vraiment être raciste. C'est pas les dressings en palissandre ou les piscines à débordement le vrai luxe. C'est de tous ensemble autour d'une table pouvoir chier sur les touristes allemands. C'est ça la maison.
Merci. Merci Marie-Rochelle. France Inter. Nagui. La bande originale. La bande originale de la pièce de théâtre, puisqu'il y a de la musique dont tu te souviendras de moi.
Mais laisse mes mains sur tes hanches. Ne fais pas ses yeux furibonds. Tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson.
Elle revient plusieurs fois d'ailleurs cette musique hein, dans la pièce.
Alors, il y a eu un petit changement.
Ah pardon.
Mais c'est pas loin, hein, c'est Retiens la nuit d'Hallyday.
Très bien.
D'Hallyday adapté de...
C'est joli, ok.
Oui, oui.
Retiens la nuit. C'est Aznavour qui avait écrit.
Ah non, c'est une chanson américaine.
Retiens la nuit,
oui.
Je crois que c'est Charles Aznavour qui a écrit les paroles.
Ah, qui est adapté, oui.
Oui, oui.
Oui, oui, c'est... Non, mais c'est comme beaucoup. Enfin, c'est adapté d'un standard américain.
Américain, mais les paroles françaises, c'est Aznavour.
Ouais, c'est Charles Aznavour qui a écrit les paroles. Bon, bref, bon, enfin, donc il y a de la musique dans cette pièce.
Pour résumer.
C'était tout ce que je voulais dire. Et de la musique dans vos vies également, puisque Fanny Valette, en 1994, écoutez.
Planète Marseille, je danse la nuit.
Ah, bah oui.
Bah ouais, vous étiez pas les seuls, les filles, excusez-nous.
En fait, c'est nous. Je sais pas quel âge t'as, mais moi, c'est mes parents qui avaient acheté ça. J'écoutais ça parce que mes parents avaient bon goût.
Ouais. Oui, bah, moi, à cet âge-là, c'est vrai que c'est souvent les parents qui...
Ouais, moi, c'est mes enfants.
C'est ça. Oui, Fanny, vous avez...
c'est mes petits-enfants.
7-8 ans, en écoutant IAM, et vous décrochez déjà un premier rôle.
Dans une série, en fait, pour la télé.
Ah oui, mais c'est un rôle.
Oui, oui. J'étais toute pitchou et je rêvais de ça depuis un petit moment.
Mais comment on se retrouve à 7-8 ans devant une caméra d'une fiction télé ?
Eh ben, on meurt d'envie.
C'est maman qui vous emmène au casting ?
Ah non, pour le coup, mes parents n'étaient pas du tout... mais comme plein de parents qui se préoccupent de leurs enfants, ils n'étaient pas forcément ravis à l'idée que leur petite fille puisse manquer les cours ou puisse avoir une passion comme le cinéma ou la télé. Ça peut faire peur à des parents. Donc au début, ils n'étaient pas très
chaud,
oui, pour que je fasse ça. Et puis, ils se sont dit que ça allait être un moyen de me canaliser un peu parce qu'on m'avait passé un deal. J'étais bonne à l'école et j'avais le droit de tourner. Donc ça leur permettait d'être un peu tranquille. Et puis malheureusement, bah, j'ai eu envie de continuer, j'ai eu envie de faire ça. Et puis maintenant, ils me soutiennent. Mais ça a pris un petit moment, notamment pour mon père, d'accepter que sa fille ait envie de devenir comédienne.
Ce qui est magique, je ne sais pas si c'est la manière dont les interviews relatent ce genre de choses, mais il semblerait qu'à l'âge de 4 ans, vous ayez vu une pièce de théâtre ou une troupe de théâtre. Et c'est qu'à ce moment-là, vous avez dit « j'ai envie de faire ça ». Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent qui aimeraient énormément que leur enfant à 4 ans sache déjà ce qu'il veut faire,
oui,
et quelle est la passion.
C'est vrai que j'ai toujours eu cette passion-là. Donc ça a été, j'ai un petit frère qui a 16 ans là, et qui se passionne de plein de choses, pour plein de choses. Et c'est vrai que j'en discutais avec lui, il m'a dit que j'avais de la chance d'avoir
trouvé
une passion assez jeune. Ouais.
Ouais. Il y a eu ensuite une autre série avec Gérard Klein, l'Instit. La première,
oui.
C'était Philippe Rousse, c'était Jean-Louis Lorenzi hein, qui était les créateurs d'Une famille pour deux.
Oh là là, j'ai sûrement.
Si, je vous le dis.
Bon, bah voilà, c'est ça.
Vous avez 7-8 ans, vous savez pas le nom de tout le monde. Après, il y a eu La famille Sapajou d'Elisabeth Rapneau. C'est ton sac en papier fait énormément de bruit, hein, Patrick, si tu veux savoir. D'accord, c'est gentil. Dès qu'on parle pas de lui, c'est incroyable. C'est incroyable. Et la première fois au cinéma, c'était en quoi, en 99?
C'était pour La petite Jérusalem, donc je ne me souviens plus de
l'année. Je crois que c'est pour Le fils du français.
Ah, Le fils du français, oui, pardon. Oui, oui.
Ça va la mémoire tous les deux.
Vous êtes bien dans le rôle.
Oui,
là,
oui, c'est vrai que c'était pour... oui, avec Josiane Balasco, Fanny Ardant,
bah, même,
Thierry Frémont. Au Venezuela, c'était une expérience... Ne dis pas inoubliable.
Ouais.
Hallucinant. Pourquoi pas inoubliable?
Parce que vous l'avez oublié.
Ah oui, oui, bien sûr.
En 2000, Patrick Chenet, écoutez.
Ah,
on parle de toi.
Corpo dourado do sol de Ipanema,
futebol.
O seu balançado
do Brasil,
é mais poema.
Quel déhanchement, Patrick.
Mais à coup de magie que j'avais pas ça.
En 2000, vous êtes réalisateur.
Oui.
Ah bah oui, ne dis pas sur ce ton-là, on a l'impression
ben oui.
que c'était...
Ben vous me posez une question, je réponds.
C'est pas une question, c'est une affirmation, c'est, je le dis avec le ton de « c'est la classe
oui. »
réalisée. Est-ce que ça c'était un rêve caché, ben, inassouvi depuis longtemps?
Je voulais être réalisateur de cinéma quand j'étais jeune, on l'appelait le metteur en scène à l'école, j'avais une caméra et tout, je faisais des... Puis finalement je suis tombé dans l'art dramatique... Et puis j'ai continué, comme j'ai évidemment beaucoup travaillé.
Et pourquoi l'empêche
ben, parce que je me suis dit, à 50 ans, il faut quand même que je fasse un peu le metteur en scène que je rêvais d'être quand j'étais gamin. Donc j'ai réalisé un film, puis un autre.
Charmant garçon,
qui a été unanimement salué par la critique, qui n'a pas cartonné.
En nombre d'entrées, mais qui a eu la reconnaissance de vos pairs, en tout cas.
Énorme. Il y a même un fan club Charmant Garçon qui se projetait le film régulièrement et qui apprenait par cœur les répliques et qui disait les répliques en même temps que les... et qui un jour m'ont invité. Effectivement, c'était très impressionnant.
Dans ce film, vous avez donné un rôle à Émilie, votre fille que vous oui. retrouvez là sur scène à la salle Réjeanne. Quel rapport on a père-fille quand on travaille ensemble au cinéma ou au théâtre?
C'est
encore plus délicat ou c'est
non, au contraire, c'est très agréable. On se comprend, il y a pas aucune. Je veux dire, on s'épaule, on se comprend. Je crois qu'on peut dire qu'on s'aime. Voilà, et c'est non, ça pourrait effectivement faire doublon avec la vie privée et la vie professionnelle, ce dont je me méfie souvent. Et en fait, là, pas du tout.
Vous avez dit un jour que les plateaux de cinéma ou de théâtre étaient un peu machistes. Ça fait peur à un papa d'une fille de la laisser partir dans ce milieu-là?
Un peu. Oui, c'est très machiste. En même temps, on est quand même dans le domaine de la création artistique. Donc il peut y avoir une espèce de compréhension ou de on est sur le même terrain avec les gens là. Parfois il y a des antagonismes hein, comme dans tous les milieux, mais non mais
vous n'avez pas cherché à la dissuader de faire autre chose? Vous lui avez pas dit comme les parents de Fanny Valette travaillent à l'école?
Je l'avais bah au départ on était toujours un peu inquiet, c'est un métier chaotique hein. Quand le pouce est baissé, on fait un métier de gladiateur hein. Ça peut être chaotique.
Où il n'y a aucune garantie d'emploi à moyen
sûr,
terme.
Mais ouais. C'est ce qui en fait le charme aussi.
Je sais pas si c'est ça qui en fait le charme quand même.
Il est en train de me couper la parole.
Voilà, j'en profite, je me venge.
Parce qu'il y a des moments, Fanny Valette, où on a peur de ne pas avoir son métier, de ne pas avoir de boulot dans les mois qui viennent.
Évidemment, après je pense que ça permet aussi de... parfois quand on a démarré un peu jeune, de se remettre à sa place et de réfléchir différemment. Mais oui, c'est...
Vous voulez dire, la fragilité de ce métier permet d'être en contact avec la
réalité. Il y a des gens
que ça
détruit, et puis il y en a d'autres, tout le monde ne réagit pas forcément de la même manière. Moi, je sais que ça m'a permis de prendre beaucoup de recul et de comprendre que j'avais d'autres choses que j'avais envie d'expérimenter aussi, même si ma passion première c'est la comédie, mais ça permet de réfléchir, de relativiser, de prendre du temps aussi pour d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est l'absence de projet ou la peur de ne pas en avoir, c'est très difficile, surtout quand c'est une passion et qu'on a envie de l'expérimenter souvent.
En 2006, justement, Fanny, vous êtes remarquée au cinéma, cette fois-ci dans la petite Jérusalem.
Ah
mais
bon, c'est quoi?
Également le vieux juif blonde aussi que vous avez interprété. À ce moment-là, vous écoutiez... J'ai l'impression que les musiques que vous écoutez, c'est les musiques sur lesquelles vous aimez danser aussi.
Oui.
La musique va avec fête, danse.
Non, pas forcément. Non ça peut être aussi des moments où ça va un peu moins bien, des musiques sur lesquelles on peut pleurer aussi. Mais je préfère sourire, rigoler
Et donc j'aime bien les musiques effectivement sur lesquelles je peux danser parce que j'adore la danse.
Pour reparler du théâtre, comment vous êtes arrivé dans cette pièce formidable, Le vieux juif blonde d'Amanda Sterz, que Mélanie Thierry avait créé au Mathurin.
Exactement.
Si j'ai bonne mémoire,
oui,
c'est
oui,
la première fois que j'avais vu cette pièce là-bas. Vous avez repris, alors non seulement vous avez repris la pièce, mais vous avez repris le rôle aussi. Il y a eu une comédienne, c'est ça qui a eu.
Oui, il y a une.
Qui paraissait longtemps.
Avant moi. Oui, après, c'est une comédienne dont j'aime beaucoup le travail, donc.
Non, mais c'est pas.
Dans ces cas-là, on cherche pas trop à savoir ce qui s'est passé.
Désaccord sans doute entre metteur en scène, auteur et interprétation, peu importe.
Oui, je pense que.
Non,
mais allez. Si elle travaille bien, c'est pas un problème.
Non, mais on n'est pas. La question, je pense, ne dirigez pas. Vous m'aurez pas. non, mais c'est. Ça s'est joué au théâtre Édouard VII. Et
j'ai reçu.
Et qui?
Oh, bon. Et
les initiales.
Pardon?
Les initiales.
Non, mais c'est pas. Non, vous l'inviterez peut-être un jour et elle en parlera mieux que moi.
Alors, faudra savoir qui c'est pour pas l'inviter, justement.
Non, mais la pièce, là où ça a été compliqué, c'est qu'en fait, c'est Radou Mihelinou qui m'a présenté. Pardon?
C'est Natacha son prénom ou pas?
Oui, c'est une fille formidable.
Non, mais on peut le dire, c'est une comédienne qui n'a aucun souci à.
Absolument pas, mais.
C'est Natacha Régnier. C'est Natacha Régnier qui a eu ce rôle pendant quelques jours. Quelques représentations.
Quelques heures.
Et puis, j'ai
dû reprendre la représentation en une semaine.
Si j'en parle, c'est à la fois parce que c'est une opportunité pour une comédienne, à la fois c'est la fragilité du métier dont on parlait tout à l'heure avec vous, avec Fanny, sur le fait qu'on dise à une comédienne, non, tu t'arrêtes, c'est pas toi qui continues. C'est là où on voit que ce métier est fait aussi d'ententes ou de mésententes, d'accords et de désaccords avec. Une bande de c'est pas une seule personne seule qui décide d'aller sur scène. Il y a un metteur en scène, il y a un directeur de théâtre,
évidemment.
Il y a un auteur. Enfin voilà,
on n'est jamais seul.
Il faut que tout le monde soit dans le même sens pour que quelque chose se passe et se passe bien. Voilà, et on embrasse Natacha Régnier au passage, il y a aucun souci avec elle. Donc vous, le malheur de l'une. Non mais c'est malheureusement la vie, tu es d'accord avec moi Marina, c'est comme ça que ça se passe dans les castings, dans les choix de.
Moi j'ai toujours du travail donc je sais pas.
Faut qu'on parle. mais le malheur de l'une fait le bonheur de l'autre, c'est-à-dire vous retrouvez dans cette pièce et dans ce sublime théâtre d'Édouard VII.
Oui, c'était la première fois que j'étais au théâtre, donc j'étais très impressionnée. Je me sens que c'est pas très glamour, mais je vomissais avant de rentrer en scène.
Le trac.
J'ai terrorisé.
Berléans.
J'ai dû perdre 6 kilos en 3 mois.
Ouais, Berléans, c'est l'alcool. Hein,
Alors on est sympa avec Natacha, mais moins avec Berléans.
Berléans. Berléans, faut dire la vérité. C'est une imposture, Berléans. Si seulement c'était un bon comédien, ça saurait.
Mais
oui.
Il le sait d'ailleurs.
Mais c'est un garçon qui vomit énormément.
Ouais.
Et pas toujours dans les toilettes.
Ça, on peut pas dire qu'il s'est visé.
Bonjour François, si tu nous écoutes.
Est-ce que ce mal-être, je repense à la pièce, a aidé finalement à incarner le personnage parce que c'est justement quelqu'un qui souffre sur scène.
Oui, je pense que maintenant j'arrive à prendre un peu plus de recul pareil par rapport au personnage. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais besoin de me nourrir de tout ça. Donc j'avais tendance à confondre un petit peu pour m'aider un peu plus à jouer sûrement. Mais c'est surtout que le théâtre Édouard VII, c'est un théâtre magnifique. Il y a, je sais pas, 1000 places, un peu plus.
Ah, je me rends pas compte de la jauge.
T'es sûr avec les.
Patrick,
750.
Ils en avaient rajouté pour. Fanny.
750.
Je pensais, ou peut-être pour me mettre la pression à l'époque, on m'avait dit.
Non, mais il est impressionnant en tout cas.
Oui, puis j'ai 20 et quelques années. C'est la première fois que je suis en scène et j'ai repris la pièce en. En une semaine, même pas. Donc j'étais.
Ouais, en urgence, ouais.
Voilà. Donc, mais c'était une chance dingue de pouvoir faire ça. J'ai essayé de le faire le plus sincèrement du monde et j'ai adoré.
En 2015, Patrick Chesnay, vous écoutiez les Stones. Dans j'adore le choix que vous avez fait sur les Rolling Stones, déjà parce que j'aime évidemment les Stones, mais parce qu'en plus, ça vient bien expliquer le principe de la bande originale. C'est, on ne demande pas quel était le tube du moment en 2015, lorsque telle ou telle chose est arrivée dans votre carrière, mais bien quelle est la musique de ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là. Donc les Rolling Stones, vous les écoutiez plus que...
Non, je pense que simplement j'étais allé les voir au Stade de France.
Très bien.
À l'époque.
Ouais.
Ils avaient été absolument... Enfin, de toute façon, un groupe que j'ai toujours aimé, mais je ne les avais jamais vus en scène. Et j'ai été ébloui une fois de plus par Mick Jagger, qui a 73-74 ans.
Il fait chaud. Hein.
Fait double saut, ouais. Double salto arrière, fait une espèce de marathon en voile bois comme jamais. Quoi. Ouais. C'est très impressionnant.
Vous savez pourquoi ?
Et en plus, c'est des grands musiciens, parce qu'ils prennent des haricots verts. Et des...
Pas de dessert, oui. Pas de charcuterie, pas de poivre.
Pas de
sur lui, ça marche.
Et des crêpes. Très bonne vanne, j'adore. Bien joué, Fanny. À ce moment-là, vous étiez...
Qu'est-ce qu'on se marre.
Vous étiez sur TF1 dans Nos Limites.
Oui.
Et vous avez joué également avec Nils.
Le souper. Nils Ristrup.
Exactement.
Oui, c'est ça, c'était à cette époque-là, oui. Oui.
Qui était, elle était formidable, cette pièce. Oui. Mise en scène par Daniel Benoît, qui est justement le metteur en scène, voilà. Aussi de Tu te souviendras de moi. C'est une complicité importante, celle entre un acteur et un metteur en scène.
Oui, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui... Non, c'est un... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un ensemble d'éléments qui est très attrayant entre sa personnalité, son talent, ses qualités de metteur en scène. Et voilà, dernièrement, on a fait un spectacle sur Des Proches pour une soirée où il avait invité justement Berléand, qui... Elle vomit sur scène.
Et
enfin, un certain nombre d'acteurs.
J'ai une pensée pour Alexia, sa douce femme, ce qu'elle subit, ce qu'elle vit. Je suis tout cœur avec toi, Alexia.
Et voilà, c'est lui qui avait organisé ça. C'était une soirée très surprenante où chaque mot portait Des Proches. C'était un fou furieux, c'était un génie. Hein. Chaque mot, c'était à l'incandescence de rire. Les gens hurlaient de rire à chaque virgule, quoi. Et voilà. Quelle était la question? J'ai oublié.
La pièce s'appelle Tu te souviendras de moi. Elle est Salle Réjeanne, incarnée par Patrick Chenet. C'est pas un documentaire, hein, c'est vraiment une pièce de théâtre. Il joue un personnage aux côtés de Fanny Valette, qui est notre invitée également, Émilie Chenet, Nathalie Roussel et Frédéric de Golfim. Professeur Marc Verny, merci de venir à ce micro. Vous êtes un spécialiste, justement, de cette maladie. C'est une maladie, tout à l'heure je disais, qui touche évidemment les patients, mais aussi toute la famille et tout l'entourage, Alzheimer.
Oui, j'ai eu l'occasion, grâce à cette émission et votre invitation, de lire la pièce. Et je voulais juste revenir sur ça, c'est extrêmement juste, c'est très très juste. La description qui est faite est parfaite. À la fois avec toute cette humanité qu'il y a de garder un individu.
C'est pas toujours aussi drôle, malheureusement, dans la vie de tous les jours. La pièce est drôle.
Bien sûr, ouais. Mais c'est néanmoins derrière l'humour, toute la présentation de ce qui se vit dans une famille est mis là. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, et que justement la présentation qui en est faite avec la comédie permet d'aborder la maladie d'une manière un petit peu différente. Donc
il y a de plus en plus, je crois qu'il y a des chiffres qui sont absolument affolants. Toutes les 3 minutes, un nouveau cas de l'Alzheimer est décelé.
Oui, c'est ce qu'on dit. Ne me demandez pas comment les calculs sont faits, j'en sais rien et je serais incapable de voilà. Mais ce qu'on peut dire en revanche, c'est que en France, il y a de l'ordre de les chiffres qu'on retient habituellement, c'est 850 à 900 000 patients qui seraient atteints de la maladie. Et le chiffre aussi qu'il faut retenir, parce que ça, je crois que c'est un élément important et dont on ne parle pas forcément beaucoup, c'est qu'à peine la moitié sont diagnostiqués.
Alors, faute de quoi ? Parce qu'on ne va pas suffisamment voir des spécialistes, parce qu'on
oui, je pense
on trouve que c'est normal qu'avec l'âge, on
exactement,
oublie certaines choses.
Il y a probablement un de ces éléments qui interfère beaucoup avec la démarche qui est celle d'aller voir un médecin, c'est de se dire, oh, finalement, avec l'âge, c'est bien normal qu'on perde la mémoire, qu'on ne se souvienne pas de certaines choses. Et c'est vrai que c'est un élément qui probablement limite un peu la démarche diagnostique.
Il y a parfois un déni des proches aussi qui refusent d'admettre. Mais oui. Non, c'est pas possible. Ta mère ne peut pas être.
Ça, je crois que c'est très juste également. Et comme le patient par lui-même n'a pas forcément la pleine conscience de ses difficultés. Voilà, tous ces éléments-là font que, in fine, on a un sous-diagnostic, mais qui va pouvoir avoir des répercussions, alors à la fois sur le plan humain, mais oui, également sur le plan médical, qui vont être extrêmement, extrêmement importantes.
Alors, il n'y a pas le contraire aussi, c'est-à-dire que des gens qui ont un trou de mémoire, se souviennent plus au numéro de téléphone, se disent oui. Alzheimer, tout de suite.
Oui, bien sûr.
Panique, ouais.
Bien sûr. Dans les exemples qu'on peut voir en consultation, c'est je viens vous voir parce que l'autre jour j'étais dans le magasin, je me suis pas souvenu de mon numéro de carte bleue. Ouais. Bon, voilà, c'est typique, enfin je dirais que c'est typique et le contre-exemple.
Il dit ça souvent au restaurant, ça.
Dans certaines circonstances en particulier, ouais. Probablement.
C'est quand même le roi du mec que t'as, avec qui tu prends un verre et qui paye jamais son coup. Daniel Morin, formidable, j'adore.
C'est parce qu'il se souvient pas de son
numéro. Ouais, c'est ça, non, mais il se souvient même pas qui je suis, mais il prend le verre.
Ah, si seulement.
Alors, ça, on peut peut-être parler de l'alcool, justement. Enfin,
non. On va en parler parce que l'hygiène de vie, la gymnastique de la mémoire et du cerveau, les connexions de neurones, tout ça, ça se travaille. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ce qui se passe dans la pièce, c'est-à-dire ces différentes, je sais pas comment les qualifier, ces différentes couches de mémoire ou la mémoire immédiate, la mémoire lointaine, on les appelle quoi, pluriel, comment appeler
ça? On parle toujours de la mémoire, ce qui pour nous est une aberration parce qu'il y a des mémoires.
Voilà.
Il y a des mémoires, donc il y a la mémoire. En fait, ce que la plupart des gens entendent par mémoire, c'est en réalité ce qui est rattaché aux souvenirs, donc aux choses qui sont anciennes. Mais ça n'est qu'une partie de la mémoire, et c'est de fait une des mémoires qui est relativement préservée et de manière assez prolongée dans la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que là, comme dans la pièce, les souvenirs des choses qui sont très anciennes, et a fortiori quand ce sont des choses qui sont manipulé de façon professionnelle, par exemple dans des habiletés, on a vu comme ça des études
les
de fait sur
les dates historiques.
Oui, les dates ça, historiques, ouais. Mais pour prendre un autre exemple, il y a eu des travaux de fait sur les taxis londoniens, sur des patients donc qui développaient des difficultés et qui pour autant gardaient les trajets à prendre de façon parfaite.
Et les chansons.
Parce que c'est voilà.
Et les chansons. Ça, c'est
alors, là, ouais, alors c'est encore. Enfin là, on est probablement sur des choses encore plus complexes parce que faisant appel à différents sens,
Il y a des moyens mémotechniques de retrouver des chansons grâce aux mélodies.
La mémoire qui finalement est celle des faits anciens.
Ouais.
La mémoire qui va être précocement touchée dans la maladie d'Alzheimer est vraiment moi ce que j'appelle la mémorisation, c'est-à-dire la capacité en fait à enregistrer des phénomènes et des événements qui sont récents ou semi-récents. Et puis il y a des mémoires qui sont, je dirais, encore moins souvent évoquées, comme ce qu'on appelle la mémoire anticipatoire, c'est-à-dire celle de « il ne faut pas que j'oublie d'aller chercher le pain ce soir », et là qui va être également quelque chose de perturbé de façon précoce dans la maladie, et ce qui va générer des difficultés dans la vie quotidienne de façon importante, finalement.
Alors, ce qui peut intéresser, ce qu'a dit tout à l'heure Patrick Chenet, ce qui peut intéresser nos auditeurs aussi, c'est quels sont les premiers signes, et ou à quel âge faut-il commencer à s'inquiéter ou pas d'une éventuelle maladie d'Alzheimer?
Alors là, globalement, la grande majorité des maladies sont des maladies dites sporadiques, c'est-à-dire qu'il y a des maladies qui vont survenir chez des gens qui sont relativement jeunes, malheureusement. Enfin, quand je dis relativement, c'est des gens jeunes, puisque certains cas peuvent être touchés à 40 ans, donc on est chez des gens jeunes. Surtout à l'âge que j'ai, c'est les gens jeunes. En pratique, ces cas-là sont tout à fait exceptionnels. C'est de l'ordre de 1% des cas de maladie d'Alzheimer.
Oui, et la grande majorité. Disais, mais comment on fait? Il faut aller régulièrement voir un neurologue.
Il faut pas aller régulièrement voir un neurologue, mais donc. Juste sur l'âge, hein, ouais. Grossièrement, la majorité des patients vont avoir authentiquement la maladie installée à partir de 75 ans approximativement. D'accord. Et donc on est quand même sur quelque chose de relativement tardif.
Et en prévention, en attendant évidemment que les chercheurs trouvent, puisque ça va arriver un jour, et de combattre cette maladie qui encore une fois fait souffrir aussi bien ceux qui l'ont que l'entourage, parce qu'on imagine bien la détresse d'un enfant lorsque sa maman ne le reconnaît pas, c'est quelque chose qui est totalement bouleversant et douloureux à vivre de toutes parts. est-ce que l'exercice de faire travailler sa mémoire, de lire, d'avoir des activités, qu'elles soient physiques ou culturelles, aide à lutter contre Alzheimer?
De ce point de vue-là, y a des choses, je crois, extrêmement importantes à dire, parce que je pense que ça, c'est un message qui est vraiment pas suffisamment véhiculé. Des travaux récents ont montré que si on agissait sur ce qu'on appelle, nous, les facteurs de risque, ce sont des éléments ou des événements qui sont susceptibles de favoriser la survenue de la maladie. D'accord ? Si on prend le cancer du poumon, le tabac est un facteur de risque. Ça ne veut pas dire que si vous fumez, vous aurez obligatoirement un cancer.
Et ça veut pas dire que si vous fumez pas, vous n'aurez pas de cancer non plus.
Voilà. Et l'inverse également. Voilà. Donc les facteurs de risque, c'est ça. Et si on s'intéresse à ce qu'on appelle les facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire ceux sur lesquels on peut agir, on peut avoir une influence, par exemple arrêter de fumer, qui est un facteur de risque aussi de maladie d'Alzheimer. Si on prend l'ensemble de ces facteurs de risque, il y en a 8 à 9, on réduit le risque d'avoir la maladie de 33%.
Waouh.
Donc c'est énorme, c'est-à-dire que c'est...
Et l'alcool?
C'est une capacité... Alors, la consommation d'alcool est quelque chose qui est, je dirais, très encore débattu dans le monde scientifique, mais de plus en plus, on a quand même cette notion que la consommation d'alcool serait néanmoins délétère, a fortiori quand elle est excessive.
N'est-ce pas, Daniel?
Quand t'as soif, t'as soif.
100 conseils essentiels. La maladie d'Alzheimer, vous publiez chez Solar, pour ceux que ça intéresse, et ça doit nous intéresser tous. Ce livre, professeur Marc Verny, et si j'ai bonne mémoire, c'est le 21 septembre, qui est la journée mondiale de lutte contre Alzheimer.
Parce qu'il y a aussi une autre notion, il y a la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie génétique très précise, et puis la perte de mémoire. On peut aussi ralentir tu vois, je veux dire, c'est deux trucs différents,
je vois
c'est ça.
Vous pouvez nous en parler, professeur, s'il vous plaît.
On parle tout à l'heure. À bientôt, professeur Marc Verny, merci. Tanguy Pastureau.
Oui, bonjour.
Bonjour, surprise, en une de Paris Match, on retrouve Manuel Valls.
Oui, il vit en Espagne, ce qui va faire plaisir aux gens de sa circonscription, puisqu'il est aussi député de l'Essonne. Mais que vaut le 9-1 comparé à la chaleur ibérique, au sangria dégusté dans le nombril d'une femme? Certes, il faut avoir un grand nombril, mais en tirant dessus, ça passe. Car oui, Valls à retrouver l'amour.
On en parle après les infos de midi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Marina Rollman, Daniel Morin aussi, Tanguy Pastureau, Albert Aljou, et nos invités Fanny Valette et Patrick Chenet. Fanny, Patrick. Folie du spectacle, foule endiablée, une ambiance moins chaleureuse que ce qu'il y aura à la salle Réjeanne, avec les standing ovations et les fleurs jetées sur scène. Patrick Chenet est au cœur de l'affiche avec un post-it posé sur le front, avec ce point d'interrogation, parce que ce sont les petits mots aussi qu'on laisse un peu partout quand on a la maladie d'Alzheimer, pour ne pas oublier de faire certaines choses, mots écrits par soi-même ou mots écrits par la famille.
Oui.
Alors je voulais arriver à la suite. C'est l'un des moments clés aussi de cette pièce. L'écrit a aussi son importance, qui est pas facile à.
Oui, c'est ça. C'est un petit carnet sur lequel il note un petit peu ce qui se passe, qui lui permet de voir ce qui s'est passé parce qu'il a oublié. Et ce qui est aussi une source de drôlerie, hein. Tout est source de drôlerie dans cette pièce qui est traitée, vous savez, de toute façon, les comédies, d'une façon générale, traitent de sujets graves. C'est un angle, c'est une façon de les aborder.
Ouais, il faut, c'est la situation de celui qui se prend un poteau dans le nez, il a mal, mais on rit quand on voit la cascade. Exactement.
Oui, c'est très juste.
C'est Fedot qui disait que toute comédie, c'est la réfraction d'un drame.
Oui, c'est un drame. Les sujets de comédie, ce sont des drames.
Et en même temps, dans cette pièce, on est dans une famille reconstituée, recomposée, mais une famille, d'un côté, une famille qui est en train de se défaire, celui de Madeleine et Édouard, que vous incarnez, vous, avec Nathalie Roussel.
Oui.
Et puis de l'autre, ils vont apprendre à se redécouvrir aussi, que ce soit avec sa propre fille Isabelle, jouée par Émilie Chenet, ou que ce soit avec sa belle petite fille, je sais pas comment on peut appeler ça.
Ce sont des histoires d'amour en fait qui se reconstituent avec sa femme qu'on a marre et qui le trompe, mais quand même on sent qu'ils s'aiment et qu'ils se sont indispensables l'un à l'autre. Avec sa fille aussi, sa fille qui est à la charge de tout ça en fait. fait, qui prend tout ça en charge, et ce sont des allers-retours comme ça, d'amour, de ras-le-bol, mais je crois d'amour, et puis aussi avec la nouvelle découverte qui est son histoire d'amour, en fait. Je pense que c'est ça, sans sexe, sans rien, hein, il s'agit pas de... Mais il y a quelque chose qui appartient à ça, à une rencontre et à une histoire d'amour, à l'automne de sa vie, quelque chose va se passer qui va le réveiller, l'intéresser, le faire vibrer comme quand on est amoureux, quoi.
C'est agréable, Fanny Valet, de se retrouver sur scène justement à aussi bien faire rire que faire pleurer, parce qu'il y a un final très 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 émouvant.
Bah, si on y arrive, ce sera absolument formidable. Oui.
Non mais vous l'avez déjà vécu, donc j'imagine.
Oui,
que...
oui, mais c'est, tout est à refaire.
D'entendre des petits. Non mais d'entendre des rires, c'est une chose. D'entendre des sniffs, d'avoir des moments comme ça.
Bah, oui.
Des gens qui se droguent au premier rang.
Non.
C'est son passage sur Canal, ça.
C'est ça. Bah, c'est formidable. C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour toucher un peu, pour essayer de toucher les gens et de leur parler et de avoir de l'émotion. C'est vrai que c'est très paradoxal on n'a pas forcément envie de faire pleurer les gens, et en même temps, dans ce genre de contexte, ça nous fait presque plaisir. C'est très étonnant.
Faire rire, faire pleurer en même temps, quoi, c'est ça, oui. C'est ce qui m'intéresse.
C'est fort, parce que j'ai l'impression que c'est plus souvent au cinéma que ça arrive, ce genre de choses, et plus rarement au théâtre. Au théâtre, on est soit dans quelque chose de forcément dramatique, soit forcément quelque chose de drôle et la grande comédie. Oui. Mais jouer
souvent,
avec les deux,
théâtre, on rit même dans des choses dramatiques.
Ah oui, je trouve qu'il y a des textes formidables.
C'est-à-dire que la représentation de la condition humaine, juste quand c'est bien, quand c'est juste, fait réagir les gens par le rire très souvent. Hein.
La pièce est signée d'un auteur québécois, je ne l'ai pas cité, pardon, François Archambault, et qui a été adapté par Philippe Carrois, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup voyagé, beaucoup été modifiée, cette pièce, comment c'est passé?
Oui, c'est-à-dire que le québécois est une langue étrangère à part entière. Hein,
non,
complètement.
Non,
ah bah, je vous donnerai la version originale, c'est incompréhensible.
C'est vrai?
Incompréhensible.
Donc, je croyais qu'il y avait quelques expressions comme ça qui étaient très québécoises,
des phrases avec des mots inconnus, dont le sens nous échappe très souvent. Enfin, on comprend le sens global quand même, mais c'est très compliqué à restituer en français de chez nous, quoi. Enfin, en français. Mais non, il y a le français québécois, il y a le français, parisien, enfin, pas parisien.
Non, que parisien, c'est
hexagonal, hexagonal.
Hexagonal. Oh, il creuse. Ah, pas les tom-tom. Allez, on y va, on creuse.
Non, le québécois est un français. Qui a évolué, qui a sa propre identité.
C'est presque un patois ou un dialecte.
Sa propre originalité.
C'est un français qui a dégénéré. Voilà.
Donc il manque quand même
on peut le dire.
C'est le français qui a dégénéré.
Certaines adaptations. D'accord. Aussi avec des événements de la société ou politique, etc. Québécois ou canadien qui, pour nous, sont étrangers.
Il n'avait aucune résonance en France.
Il a fallu faire un travail d'adaptation avec des événements français.
Voilà, donc saluons le travail de Philippe Carrois au passage. Voici l'heure de retrouver à 12h13, mais Tanguy Pastureau, mais c'est lui. Tanguy, cela faisait des mois qu'on n'entendait plus parler de Manuel Valls.
Oui, quel pied, on ne le voit plus. À l'instar de Ramayad et du corps de Zaya, si on s'est désinscrit d'Instagram, ou qu'on a perdu la vue à la suite du visionnage d'une chronique de la bande originale, parce qu'ils nous ont collé les mêmes sunlight qu'à Bollywood. J'ai l'impression d'être un plant de cannabis, d'où ma crainte que Marina Rollman me foute dans du papier OCB avant de me fumer, puisqu'elle est suisse, et ces gens sont très laxistes sur la question des drogues. C'est un super pays. Hein, Aznavour y vit, H24, il tourne au mélange Coq Poppers. Là, il a signé pour une tournée jusqu'en juin 2030. À BFM TV, Apolline de Malherbe pleure en regardant le fauteuil de Valls vide, fauteuil qui porte encore la marque de son petit cul galbé de latin au corps affûté. Mais si Valls a disparu, ce n'est pas qu'il a été kidnappé, hein, puisque personne ne voudrait payer pour le récupérer. C'est juste qu'il a déménagé, comme Nicolas Hulot ou le poids normal de Lily Rose Depp. Il nous a quittés pour l'Espagne, pays dont la population est constituée de Julio Iglesias et de ses enfants, plus de trois travailleurs immigrés qui cueillent des tomates. Bon, il faut le comprendre, en France, il a un métier pourri, hein, député de l'Essonne, ce qui est aussi chouette que de bosser chez RAM quand on est le neveu de Christian Louboutin. L'Essonne, ce département maudit qui est marqué du signe de la bête, car c'est le numéro 91. Or, 9 plus 1 égale 10, et si on ajoute 656, ça fait 666.
Hein.
L'Essonne, qui nous a donné les To Be Free, Diams et Danny Briand, mériterait d'être rasé. vrai. Alors Manuel Valls, vu la tournure que prenait sa carrière en France, c'est-à-dire aucune, a donc décidé de partir bosser en Espagne. On a tous une porte de sortie. Si moi j'échoue, en tant que Breton, je postule à France Bleu Breizh-Izel. Je sais dire Kenavo et suis capable de prendre la voie express Quimper-Lorient en contresens en chantant d'une loi de Leroy. Donc ce sera une formalité. Alors il a passé l'été au Baléares, à Minorque. Hein, c'est comme Majorque, mais en petit. C'est un peu la même chose que David Pujadas par rapport à Olivier Mine, mais avec des plages. Et là, il a, nous dit Paris Match, retrouvé l'amour. Hein, il a quitté Anne Gravois récemment. Il y a 4 mois, il était avec une députée En Marche. Et en juillet, donc, avec une autre. Il est hot, le loulou. Vous lui posez une merguez sur le pelvis, 7 secondes plus tard, elle est cuite. Lui, tous les jours, il change de compagne, il change d'idée politique, il change de slip. Sa vie est aussi précaire qu'un contrat de comique à Radio France. Donc nous, quand on va en Espagne, on siffle des sangrias et on finit par sortir avec une barmaid percée qui porte un sarouel. Mais Valls, non, il fut Premier ministre et il brasse du flouze. Ses critères de sélection en la matière sont pointus. Vous lui collez la fille Bettencourt, il lui dit « mais dégage Cosette ». Il a donc rencontré Susana Gallardo, hein, une Catalane très gentille. Hein, ses amis disent d'elle que c'est une crème. Voilà. Non, bon, c'est au cas où ça foirait pour Breizh-Izel, je garde de côté l'option rire et chanson.
Non, c'est foutu.
Voilà.
Est-ce qu'on en sait plus sur cette Susana Gallardo?
Oui, d'abord qu'on prononce son prénom Susana, hein, puisqu'elle est espagnole, mais aussi qu'elle est l'héritière des laboratoires Almiral, qui commercialise notamment le Spagulax, hein, un médicament contre la constipation. Donc, si Valls mange trop de chocolat, Susana lui dit, ah, Valsa, mi amor, hein, c'est Spagulax, mais avant, por favor, tu regardes s'il y a un petit buisson dans le coin, parce que Spagulax, hein, ça dépote. Et Val se retrouve un peu comme dans un épisode de La Casa de Papel, dans lequel on ne viderait pas une fabrique de billets, mais juste donc lui-même. Oh. À noter que les laboratoires Almiral font aussi des médicaments qui traitent le système nerveux. Donc ça, c'est bien pour Valls, parce qu'il est un poil fébrile. Hein, sur l'échelle de la zénitude, qui va de 1 à 10, 1 doc gynéco en pleine descente, 10 Samina Siri qui vous écrase la tête avec une enclume, il est à 9. Mais Susana n'est pas qu'une héritière. Elle a aussi été mariée pendant 30 temps à Alberto Palacci, 26e fortune d'Espagne. Elle a plus vécu dans le blé qu'un paysan de la Beauce. Si Valls, par malheur, sort un chéquier de la banque postale, elle lui dit « Désolé, ça marchera pas entre toi et moi. Adios !» Ce qui fait d'elle, d'après la presse, l'une des femmes les plus influentes d'Espagne. Demain, elle appelle Victoria Abril pour lui dire « Cocotte, arrête ton délire. T'as tourné avec Almodovar, les séries de TF1, c'est bon pour Mimi Mati. » L'autre direct répond « Oui, madame. » Repart dans le cinéma indé et un an plus tard, fait la une des Inrocks entre Edouard Louis et Christiane Taubira. Or, Valls, ce qu'il veut, c'est la mairie de Barcelone, hein, parce qu'il en a marre de se taper des Airbnb. Une fois sur deux, il n'y a pas de machine Nespresso, il faut ressortir les filtres à café. Et la politique, c'est le seul moyen d'avoir un super appart sans sortir un euro. Je peux vous dire que Macron, quand il est à l'Elysée, il se dit « Yes, papa, encore 4 ans à kiffer, loin de ces Gaulois à la mort moelle-neuve qui refusent toute réforme. Hein, » Et il localise Brigitte à l'autre bout du F300 grâce à une puce GPS qu'il lui a mis sous la peau. En Espagne, Manuel et Susana, on les appelle, nous dit Match, le couple de l'été. Hein, de trucs qui allaient par deux cet été, il y avait eux et le mélange Spritz coupelle d'olive. Et ils vont tout rafler. Valls a l'ambition, vous le mettez dans un pré, il le laboure avec ses incisives. Et elle a un carnet d'adresses mais plus gros que le vôtre, Nagui. Hein, la seule différence, c'est qu'elle n'a pas Didier Deschamps. Hein. Dans Match, regardez, on les voit allongés dans l'un sur l'autre, hein, selon la technique des lasagnes. Lui, torse nu, les bras derrière la nuque, dans une position qu'on voit en général au bois de Vincennes. Elle le chevauche, sa poitrine frottant son short désigual dont les fleurs se mettent alors sous la chaleur à éclore. L'amour, l'argent, le pouvoir. Il y a un an, Valls n'était plus rien. Mais quelle revanche sur la vie, quoi.
Merci, Tony Bastiaud.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Est-ce que j'imagine, Fanny Valette, quand on fait une pièce sur, enfin quand on fait une pièce de théâtre, d'ailleurs, l'exercice de retenir, de travailler son texte est quelque chose de particulier. Vous avez encore moins de droit à l'erreur, vu le sujet de la pièce, d'ailleurs, d'avoir des trous de mémoire. Mais ça se travaille, justement, c'est une gymnastique, on en parlait tout à l'heure avec le professeur Fanny.
J'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire. Donc c'est vraiment une vraie chance et je m'en rends compte. Mais aussi je pense...
C'est à peine quelques lectures du texte et vous les...
Ouais,
vous
j'apprends l'avez. Très vite, mais je pense, comme j'ai démarré ce métier très jeune, justement cette gymnastique, je l'ai fait donc très jeune. Et effectivement, peut-être que le fait d'avoir travaillé ma mémoire on est, depuis que je suis toute petite, m'aide maintenant à avoir cette possibilité d'apprendre un texte très très rapidement.
Patrick, c'est une gym vraiment la mémoire ? Ça se travaille.
Bah, si, on est très différents devant la mémoire. Hein. Il y en a qui ont une très très bonne mémoire, ouais. D'autres un peu moins.
Ou des mémoires sélectives.
Moi, avec le temps qui passe, comme dit mon médecin, oui, il faut faire gaffe. Il faut mettre le double, il faut travailler plus, il faut épicer des repères. Vous savez, il n'y a pas que la mémoire brute aussi, il y a les repères affectifs en ce qui concerne nos métiers, c'est-à-dire que où on se situe sur scène, quel rapport on a avec son partenaire, qui aide à stratifier la mémoire.
Oui, pardon, et en plus, il faut que vous connaissiez les répliques des autres. C'est-à-dire, c'est pas uniquement connaître son texte.
Oui, c'est, oui, c'est voilà, c'est ça. Enfin, un peu moins, on n'est pas obligé, mais c'est plus intéressant de savoir à quel moment on parle. C'est à nous de parler quand l'autre a fini, quoi. C'est mieux.
Ça vous est déjà arrivé sur scène un trou de mémoire? Dans votre carrière, je vois pas forcément là.
Assez peu. Ce qui m'est arrivé, c'est de dire, ce qui m'arrive encore, un mot à la place d'un autre. Enfin, le sens reste le même.
Ouais, oui, voilà, c'est moins grave.
Mais, le vrai trou de mémoire. Oui, ça m'est arrivé. Pas grave, j'ai improvisé un peu. Alors évidemment, quand c'est en alexandrin, c'est un peu plus compliqué. Mais en alexandrin, pas trop de mémoire, parce qu'on a le repère de musical de l'alexandrin, justement.
Mais là, vous êtes peinard pour cette pièce de théâtre. Vous avez droit à vous, dans votre personnage, à tous les trous de mémoire possibles. Ah,
tranquille. Le sourire.
C'est rassurant, je suis ravi. On est dans 3 jours sur scène.
On vient de s'en rendre compte, Daniel Morin, tout au long de cette émission, la mémoire, le travail, travailler sa mémoire, c'est un bien précieux, il faut l'entretenir, donc il n'y a pas d'âge pour le faire, c'est capital à la communauté.
Ah, il est là, c'est lui, il est de retour. Ah, il n'a pas grandi, mais il est quand même revenu. Champion du monde. Ah, oh, ta gueule, la vieille, ta gueule. Non, mais achevez-moi tout de suite, marchez-moi sur la gueule. Vas-y, Alberto, piétine-moi, insulte-moi. Moi en croate, Patrick, Fanny, sincèrement, vous avez bien du courage. Quelle platitude, quelle analyse tiéda s'est frelatée. Je sens couler mes oreilles incrédules des larmes de dégoût dont vous êtes le sourcier, monsieur Guy. Oui, vous réussissez à me faire pleurer des oreilles, espèce de sagouin hiéroglyphe. Oh, nom de Dieu, on se croirait dans une conférence de presse de votre ami Didier Deschamps. Avec un peu moins de fautes de français, il faut le reconnaître. Alors oui, monsieur Guy.
À 14h.
C'est vrai, les vacances vous ont réussi. Vous êtes bronzé comme un migrant oublié sur une plage de Lampedusa. Ok. Vous êtes doux comme l'intérieur soyeux d'un coquillage mort. Ok. En revanche, vous êtes con comme de la biafine sur une piqûre de moustique. Sans déconner. Et puis entre nous, la mémoire est un instrument dont vous ne vous servez que rarement, pour ne dire jamais. On va faire un petit test. Citez-moi ne serait-ce qu'un prénom, un seul prénom d'une des 12 stagiaires sans papier qui vous servent d'esclave à France Inter. J'écoute.
Ah bah voilà. Il n'y en a aucune. Il n'y a pas de stagiaire.
Faire travailler sa mémoire. Non, mais on dirait une collègue.
Vous êtes sérieux?
Ouais, bisous Léa. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes sérieux? La mémoire est un handicap, voire un trauma. En disant ça, j'ai une pensée pour toutes celles et ceux que j'ai aimés de façon obscène, purulente et passionnée, à qui je souhaite d'avoir tout oublié. Et personnellement, si vous saviez ô combien j'aimerais chaque matin être amnésique pour ne plus me souvenir que j'ai le malheur de travailler à vos côtés. En cette première semaine de la 5e saison, j'ai la douloureuse impression que c'est reparti. Une fois encore, mon pauvre ami, vous avez dit...
N'importe quoi. Merci Daniel.
La bande originale, Lady, sur France Inter.
L'avenir immédiat à partir du 4 septembre, salle Réjeanne, donc ce rendez-vous théâtral avec vous, Fanny Valette et Patrick Chesnay, également Émilie Chesnay, Nathalie Roussel, Frédéric de Golfiem, pour cette pièce Tu te souviendras de moi. L'avenir professionnel dans d'autres domaines, Fanny, on parle de quoi? De séries télé à nouveau, de fiction, de cinéma, qu'est-ce qui se prépare?
D'écriture là en ce moment.
Vous écrivez vous-même?
Oui, je vais faire comme Patrick. C'est un rêve que, quand tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais envie de réaliser.
Vous voulez réaliser?
Je vais essayer en tout cas de voir si j'en ai les capacités, parce que c'est quelque chose qui commence à me travailler de plus en plus. Et,
ça passe par quelle est l'idée de départ? C'est de raconter des histoires. Il y a des histoires qu'on a envie de raconter. C'est de jouer un rôle qu'on vous a pas proposé. C'est d'occuper un temps justement entre deux projets en se disant bah là autant que ça serve à quelque chose et que je crée.
Non, c'est plus la première. J'ai pas spécialement encore de. Enfin, je souhaite que ça n'arrive pas, mais de frustration de. Pour l'instant, je suis plutôt positive par rapport au fait d'avoir déjà fait plein de belles choses et d'espérer en faire d'autres. Donc c'est plus une envie de, Oui, de raconter, d'aller à, de toucher d'autres choses dans un domaine qui me passionne, parce que quand on s'intéresse au jeu, on s'intéresse comme vous disiez, sur que ça soit au théâtre ou sur un plateau, on n'est pas tout seul, on fait pas un film ou une pièce tout seul.
Ah ouais, c'est un travail d'équipe, ouais.
Voilà, c'est un travail d'équipe, et comme ça m'a toujours passionné et intéressé de savoir un peu tous les différents corps de métier, j'ai envie de m'atteler à celui-là aujourd'hui.
Parfait. On vous retrouvera, quant à vous, Patrick Chesnay, le 5 décembre au cinéma dans Ma mère est folle, où on verra les premiers pas d'ailleurs de Vianney. J'ai
oui,
hâte
super,
de le voir parce que
super partenaire, très très sympathique.
C'est contrairement à moi.
Et puis il envoie quand il chantait des chansons le soir à l'hôtel. Ouais. Moi tout seul, quasiment, il envoie. Hein.
Excellent chanteur, donc bon.
Et puis aussi après, il y a l'Empereur de Paris avec Vincent Cassel.
Alors d'abord, il n'y a pas que Vianney, il y a Fanny Ardant et Ariel Dombal.
Fanny Ardant.
Ma mère est folle de Diane Curis. Ouais. Ensuite, L'Empereur de Paris, c'est un film de Jean-François Richer,
ouais.
C'est ça ? Avec Vincent Cassel. Que faites-vous dans. Vous êtes l'Empereur de Paris ?
Non, c'est Vincent Cassel. Moi, je ne suis que le mec qui surveille et qui entretient des relations ambiguës et intéressantes avec l'Empereur de Paris.
Mais c'est quoi ? C'est un thriller ? C'est un film policier ? C'est un film noir ?
C'est un film... Non, c'est l'histoire de Vidocq au 19e siècle. J'espère que c'est un film fou, un film d'action. Un film d'action. On peut dire que c'est un film d'action.
Je crois qu'il a vraiment existé, en plus, Vidocq.
Les auteurs ont pris beaucoup de liberté. Hein. C'est un prétexte. C'est le Paris du 19e. Avec toutes ses errements et sa folie complètement reconstituée. C'est un film qui a coûté très cher, où Paris est reconstitué, donc c'est du boulot.
Et en costume, ça aide d'ailleurs les costumes, les postiches, pour jouer, pour être dans un personnage, ça fait partie du déguisement.
Oui, comme disait Jean Villard, au théâtre, au cinéma, l'habit fait le moine.
En juin dernier, vous avez tourné Damien veut changer le monde, avec Franck Gastambide, Camille Lelouch et Gringe.
Oui.
Et alors là, quelle est l'histoire ?
Oh bah c'est l'histoire d'un vieux révolutionnaire que je joue et qui essaye de pousser son fils, Franck Gastambide, donc à suivre le même chemin. C'est une histoire de migrants, une question beaucoup de migration, d'accueil des migrants, etc. Mais c'est toujours pareil, on rit beaucoup. Hein. C'est une comédie qui parle de ça, comédie assez généreuse et...
Et vous avez un emploi du temps.
Très... J'ai pas vu le film encore, il est en montage. Donc...
Vous avez un emploi du temps très chargé, puisque vous serez également dans l'adaptation de la série The Fall, qui s'appellera en français Insoupçonnable.
Oui, c'est ça.
Nous recevrons.
Et puis le film avec Sandrine Kiberlin.
Deux secondes, j'ai pas fini. Nous recevrons Emmanuel Sénier et Mélie Poulpeau le 13 septembre prochain pour parler de cette série. Et donc vous vouliez parler d'autre chose, c'est-à-dire ?
Non, le film qu'on a oublié de. Advelo avec Sandrine Kiberlin, qui s'appelle Mon bébé, que j'ai pas vu non plus,
qui
va sortir, je pense, en février.
D'accord.
Très bien. Et puis j'ai créé un bouquin
sur
moi. C'est du boulot. non, c'est une commande d'une maison d'édition. J'avais déjà écrit un bouquin, mais j'aime bien ça. J'aime bien l'exercice de. Et puis, par rapport à la noire, il y a des choses qui surgissent.
Est-ce que ce sont vos mémoires, justement?
Ou aussi, c'est sous forme de journal. C'est le moment présent qui fait ressurgir aussi des choses du passé,
Tu te souviendras de moi, Salle Réjeanne, c'est au Théâtre de Paris, avec Fanny Valette et Patrick Chesnay, Nathalie Roussel, Émilie Chesnay et Frédéric de Golfième. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour Natacha Régnier, François Berléand, dont la carrière, le talent et la tendance à gerber dans toutes les positions ont été salopés par Fanny Valette et Patrick Chesnay. En même temps, comme le dit le très courageux Nagui, on peut taper dessus, ils sont déjà à terre. Désolé pour les fans de Patrick Chesnay qui croyaient avoir affaire à une idole rock'n'roll et qui ont découvert ce matin un réac qui refuse l'apéro et ne bouffe plus de rillettes au camembert. Ah, c'est plus que c'était, je crois que ça s'appelle la berléanisation. Désolé enfin pour Donald Trump, Vincent Bolloré, Didier Deschamps, Patrick Balkany, bref, tous les amis très riches de Nagui, dont le bon goût en matière immobilière a été salopé par Marina Rollman. Ah, la jalousie des pauvres, c'est moche.
Demain, c'est Samuel Benchetrit qui sera à ce micro dans la bande originale. Merci Fanny Valette, merci Patrick Chesnay. Merde. C'est à partir du 4 septembre, tu te souviendras de moi, Salle Réjeanne. Bonne journée sur Inter avec d'abord les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Bonjour, qui c'est ?
C'est rien, ça se passera bien.
Mais qui me parle ?
N'aie pas peur.
Nagui, c'est un prénom, un nom ?
Non, c'est rien.
C'est une imposture.
Ça, ça m'étonnerait.
C'est gentil, Philippe.
Ah bah quand même.
Au moins, il y en a un qui m'aime ici.
Ouais.
Bonne émission.
Salut.
Ciao.